Yes.
Numéro 38.
La fête du singe.
Le seul avantage d'avoir une ministre noire, c'est que ça ramène le racisme dans une sphère où il devient un peu plus difficile pour tout le monde de se cacher derrière son petit doigt. Alors, bien sûr, on condamne, on s'indigne, on fait mine de sursauter d'effroi, mais pour nous, la surprise n'est qu'une autre phase du déni qui vise à ménager les consciences.
Les faits. Dans un reportage diffusé sur France 2 le 17 octobre 2013, une candidate FN au municipal comparait Christiane Taubira à un singe. Et moins d'une semaine plus tard à Angers, une ado de la Manif pour tous promettait, dans un mélange de sexisme et de racisme, une banane à la ministre. Et ce n'était pas la première fois que des militantes et militants de la Manif pour tous l'assimilaient à un singe. Face à ces attaques, voici un exemple de réaction symptomatique.
Un palier incroyable a été franchi. On est dans un univers où la parole grossièrement raciste se libère en public. Cela veut dire que le vieux racisme n'est pas mort, contrairement à ce qu'on a pu croire dans les années 80-90. On croyait alors que le racisme avait cessé d'être physique pour devenir plus subtil, discret et prendre un tour culturel. Là, on retrouve le racisme colonial, le yabon banania. C'est terrifiant, c'est un choc moral.
Michel Viviorca. Un choc moral? Dur de lire ou d'entendre cela calmement. Quand la parole grossièrement raciste a-t-elle cessé d'être libre? Et où? C'est honteux et malhonnête de considérer que la réalité et l'actualité du racisme correspondent aux peu de choses qui sont médiatisées. La médiatisation ici n'est qu'un obstacle au déni complet.
Avec un peu de chance et au hasard des caméras, les mêmes spécialistes feront bientôt semblant de découvrir que certaines trouvent encore que les Noirs ont un gros nez ou des organes sexuels démesurés. Et ils répéteront que ça va beaucoup trop loin.
Qui peut sérieusement feindre la découverte, la surprise, alors que dans toute l'Europe, au Maghreb, en Amérique, en Asie, on partage et entretient l'analogie noir-singe? Il faut être carrément à côté de la plaque, malhonnête ou centré sur son petit monde pour croire aussi que c'est limité à des extrémistes et à certains milieux politiques.
Personnellement, ce rapprochement insultant nous a toujours suivis, poursuivis. Dans les stades de foot, les cours d'école, les postes de police, dans l'espace public, dans des chansons, les films. C'est assez régulier pour avoir le sentiment qu'il n'y a jamais de trêve, de temps mort. Le singe, l'insulte, les cris, les bananes. Ce ne sont pas des baromètres. Ils vont et reviennent à haute fréquence, comme un pendule avec pour épicentre une négrophobie séculaire et persistante. Avec pour terreau l'indifférence collective, le déni ou la relativisation. Des trucs stupides du genre « Ah, mais de toute façon, on est tous des singes ». Des arguments qui méritent des baffes. Parce que même antispécistes jusqu'à la mélanine, nous savons que ce rapprochement nous enferme dans une sous-humanité, une sous-bestialité grotesque.
Pour cela, nous ne regarderons jamais la planète des singes avec la quiétude, la distance et les certitudes des Blancs. Nous ne pourrons jamais voir King Kong comme un divertissement innocent, parce que ce ne sont pas des divertissements innocents.
Les légalistes radotent comme des anachroniques vinyles rayés que c'est puni par la loi. Imaginons 30 secondes que nous soyons partisans de l'usage de la loi. Est-ce que ça sous-entend sérieusement que l'on aurait pu mener et gagner des centaines de procès depuis l'enfance? Quand nous plaindre ne provoquait que d'autres rires, l'injonction à relativiser ou l'étonnement face à notre manque d'humour? Quand seule la violence, les menaces nous amenaient une paix temporaire? La justice française aurait vraiment condamné des enfants blancs du même âge que nous?
Franchement, quelqu'un va-t-il porter plainte contre la manifestante âgée de 12 ans de la Manif pour tous qui propose des bananes à Christiane Taubira? Et est-ce vraiment elle la plus coupable? Quel noir du même âge saisira la justice pour faire tomber les petits camarades qui, depuis sa petite enfance, ont tenté le rapprochement simiesque sur le ton de la blague? Où aurait-elle ou in chopé la confiance en elle ou lui et en la justice française pour le faire? À l'école? Dans la façon dont ses parents sont traités en France? Dont ses sœurs et frères sont traités devant les tribunaux? Qui oserait entrer porter plainte dans un poste de police où ce genre de blague est apprécié, pratiqué, encouragé?
Ce serait vraiment du masochisme. Et les Noirs qui n'ont pas de papier sont exposés sans cesse aux violences des policiers, des populations et des administrations. À qui iront-ils se plaindre? Avec quel droit?
Il nous est pénible aussi d'entendre des analyses de blancs en quête de médailles ressasser des évidences du genre « oui, mais Taubira a été attaquée en tant que noire et femme ». Ou bien « oui, mais ça fait partie du jeu politique, il faut relativiser ». Bla bla bla. Comme si, pour tous ces gens, il s'agissait d'un intéressant cas d'étude.
Des millions de personnes sont mises en cause quand on me traite de guenon. Des millions de gamines savent qu'on peut les traiter de guenon dans des cours de récréation.
Dit à juste titre Christiane Taubira. Ces violences ont récemment été dirigées contre elle, contre Cécile Kyenge ou Mario Balotelli en Italie. Elles n'ont jamais cessé de toucher Barack et Michelle Obama depuis qu'ils sont médiatisés. Elles touchent les joueurs de foot noirs depuis des lustres, et même d'autres sportifs comme les boxeurs jadis. Même si elles visaient aujourd'hui Ramayade, nous nous sentirions blessés. Il ne s'agit jamais uniquement d'attaques personnelles. Elles visent le peuple noir, blessent dans leur ensemble les noirs.
Peu nous importent les réactions individuelles des uns et des autres. Les analyses et les explications contextuelles, on s'en tape. Ce n'est pas l'occasion qui rend les gens négrophobes. Ils le sont, point. Ces attaques ne font que réactualiser une négrophobie planétaire qui dévalorise nos vies. Nous n'avons aucun privilège pour relativiser. Juste la certitude que demain, au hasard, l'insulte frappera encore.
Dans les années 80, Michel Leeb faisait rire à gorge déployée la France à heure de grande écoute avec ça. Qui l'a traîné en justice? A-t-il été ne serait-ce qu'une seule fois interpellé publiquement là-dessus? S'est-il amendé? Et quand s'est-on attaqué à cette éducation? Jamais. Jamais, jamais nous ne sommes sortis de la fête du singe.
Nous continuerons à savoir que nous n'avons pour résister que l'amour qui circule dans nos communautés noires, notre conscience et notre force intacte. Quant aux analystes blancs en retard, qu'ils aillent éduquer leurs camarades de classe ou qu'ils retournent dormir.
Ou dépourvu de génie, grand vainqueur à l'âme de gagneur, ou fainéant et menteur, tout ça dans un même corps réuni. Race qui réussit, espèce peut avancer, sans histoire écrite ni récit, donc sans passé. Inventeur cravaté, créateur gâté, créature ratée, sans grandeur à cravacher. Civilisateur, sensibilisé, par train de vie aisé, hectare à dévaliser. Martyr, dans la moiteur désalisé, moteur d'immense fortune réalisée. Amateur de belles lettres et de poésie, frappeur de tambour avec fracas et frénésie. Grand penseur encensé, petite frappe assassin, baroudeur résistant, quémandeur assisté. Humble sujet du Tout-Puissant, se référant au Livre Saint. Individu indécent qui dissimule à peine et leur sexe et leur sein. Et leur sang est souillé, leurs chants sont brillants, dépouillés d'humanité, leurs yeux sont fuyants. Apprenons-leur à prier Jésus-Christ sans crier et trier la canne à sucre tout en souriant.
Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est planté en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée.
Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce nous est inférieure comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce, volontiers j'angoisse, les os glacés placés devant ce corps sans grâce. Et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence.
Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi,
ton identité, c'est être la créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. Être la créature ratée.
The screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Tracy Chapman, Miles Davis, Force MDs, Oliver Nelson, Fred Wesley, Maceo, Janet Jackson, Louis Armstrong, Duke Ellington, Jimmy Jam, Terry Lewis, George Clinton, Count Basie, M2 May, Stevie Wonder, Bobby McFerrin, Dexter Gordon, Sam Cooke, Parliament Funkadelic, Al Jarreau, Teddy Pendergrass, Joe Williams, Wynton Marsalis, Phyllis Hyman, Sade, Sarah Vaughan, Roland Kirk, Keith Sweat, Cool Moe Dee, Prince, Ella Fitzgerald, Diana Reeves, Aretha Franklin, Bob Marley, Bessie Smith, Whitney Houston, Dionne Warwick, Steel Pulse, Little Richard, Mahalia Jackson, Jackie Wilson, Cannonball and Nat Adams.
Dans le texte qui suit, nous allons parler de ce qui s'appelle le passing. Voici une définition de Nadra Karim Little. Des Afro-Américains et d'autres non-blancs ont souvent prétendu être blancs pour profiter d'opportunités qui, par ailleurs, leur était refusée. Cette pratique est connue sous le nom de passing. Premier mouvement.
Vous êtes comme au cinéma, confortablement installé dans votre siège, happé dans le ghetto chicagoan des années 40 et l'esthétique choc de l'écrivain ancien proxénète Iceberg Slim. Vous êtes dedans et à distance, voyeur, fasciné d'entendre de la voix d'un ex-mac façonné par la rue, les petits traficotages, les codes, les hiérarchies, les castes, les pièges, les modes opératoires, les figures légendaires, la misère asphyxiante et les fins tragiques. Iceberg Slim, Robert Beck, de son nom civil, a peint, après l'avoir vécu, une comédie humaine afro-américaine, droguée à l'argot et au talent littéraire. Trick Baby est l'une des trois œuvres traduites en français, ce qui pousse parfois les critiques feignasses et tendances à parler de « trilogie du ghetto » avec Pimp et Mama Black Widow. Slim a en réalité écrit presque 10 romans de la même veine entre 1967 et 1978 et sorti en plus un album de poésie, « Reflections » en 1976.
on old Broadway. That's how he got his name.
Trick Baby, c'est le roman des arnaqueurs noirs de Chicago. Roman d'apprentissage et d'ascension sociale, celle de White Folks, son protagoniste vers les sommets du métier. C'est un bouquin qui cause technique, à pas, pigeon, en vol, la glisse, pile ou face. White Folks, aka Johnny O'Brien, est le fruit de l'amour d'une mère noire à la peau claire pour un musicien alcoolique blanc qu'elle épouse à 14 ans et qui prend très vite la tangente. Johnny passe complètement pour blanc mais ne connaît qu'un seul monde, celui des noirs. Tout particulièrement son quartier pourri de Chicago. Le taudicrade où sa mère, nommée Fala, l'a élevée avec l'argent qu'elle se faisait comme danseuse exotique dans un bar quand elle ne le buvait pas. Celle-ci, comme de nombreux personnages d'Iceberg Slim, a fui la désespérance du sud profond pour essayer de se faire une place dans la folie des villes plus au nord. Parmi ces exilés qui cherchent un destin, peu d'élus. Quantité s'échoue dans les ghettos du South Side de Chicago, dont les murs, je cite, conservent les odeurs âcres, du pu, des tumeurs et du phlegme des poumons tuberculeux, des pauvres à perpétuité, qui sont morts là sans que personne ne les pleure. Blue, arnaqueur talentueux débarqué jeune du Mississippi, a lui plutôt réussi dans son domaine. Par générosité et par calcul, il va recueillir Johnny chez lui quand Fala va basculer dans la folie. Il lui apprend les ficelles du métier, sert de, je cite, « tampon entre lui et la haine des Noirs », en fait son complice à la peau blanche et le renomme « White Folks ».
Faut trouver un pseudo qui fasse de l'effet. Qu'est-ce que tu dirais de « White Folks » Ça te va comme un gant, tout comme « Blue » pour moi, parce que je suis noir.
Ça me plaît pas trop. Je veux pas que les gens me haïssent quand ils croiront que je la ramène parce que ma peau est blanche. Tant qu'avoir un pseudo, faudrait qu'il montre que je suis fier d'être nègre.
Je suis content que tu dises ça, mais c'est ce que montre ce nom. Il sonne nègre. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais un arnaqueur blanc à un vrai avec cette étiquette. Ce nom hurle que tu es nègre, à la peau blanche.
Iceberg Slim décrit la virtuosité des arnaqueurs et pose en filigrane la question des talents gâchés du ghetto. Mais le nez dans le cauchemar, il vend aussi un rêve très américain de capitalisme noir et de succès. Puisqu'au fond, nous dit-il, les petits arnaqueurs ne font qu'user de la ruse, la base même du système. La ruse des puissants, la ruse du pouvoir blanc qui maintient l'espoir chez les noirs sans les libérer pleinement. Cette même ruse qui a permis de vendre aux noirs une religion de soumission. Mais l'œuvre d'Iceberg Slim refuse de céder entièrement au cynisme et revient toujours au besoin fondamental d'aimer et d'être aimé, de croire et de faire confiance. Parce que la ruse est un cercle vicieux qui rend fourbe ou parano, qui contamine tout et condamne à terme à la solitude.
Deuxième mouvement.
Vous apprenez à jongler et vous écoutez l'autre voix. Malgré l'hyper-réalisme apparent, le côté sociologie hardcore qui condamne pas mal de lecteurs au premier degré, Iceberg Slim a créé une œuvre, avec des thèses et des obsessions. Il ne s'est pas contenté de pisser son mal et celui des autres pour réhabiliter ou glorifier une vie pourrie. Il y a un truc, un piège, un trick. Le cœur de l'arnaque, c'est l'art de raconter de belles histoires. Sacrée mise en abîme, qui place arnaqueur et écrivain au même niveau dans la maîtrise de la création d'univers fictionnel. Une voix puissante ici ne cesse de répéter que la réalité n'est jamais ce dont elle a l'air, qu'il faut aller au-delà des apparences parce qu'elles sont piégées. Thème central d'un livre qui n'est pas ce dont il a l'air, tout comme White Folks n'est ni le blanc ni le Trick Baby dont il a l'air. Parce que Trick Baby signifie d'abord « fils de pute, enfant de passe ». C'était l'insulte brûlante lancée par certains noirs à Johnny, cet enfant blanc d'une mère noire, comme s'il ne pouvait qu'être né de la prostitution. Mais ce véritable enfant de l'amour qu'est Johnny va devenir un autre Trick Baby, l'enfant du trick, de la ruse, un fils de l'arnaque. Il va renaître au travers de son corps piégé, devenu corps piège. Le motif de l'arnaque, du jeu par la parole qui manipule, renvoie aux traditions populaires orales afro-américaines et afro-caribéennes, où le personnage principal est un trickster. Ce débrouillard immoral retourne les outils du dominant contre lui en le baratinant, mais ses combines individualistes n'épargnent personne puisqu'il s'agit avant tout de s'en sortir seul.
On a de la chance de faire équipe. Ta peau blanche nous donne un avantage sur les cibles, qu'elles soient blanches ou noires. Moi, j'accroche les nègres. Toi, tu te charges des blancs. Aux nègres, je dis, on va lui rafler son fric à ce bois blanc de mes deux. Toi, tu dis aux blancs, on va se le payer, ce salopard de nègre.
Trick Baby, contrairement à un tas d'œuvres produites auparavant, notamment pendant la Harlem Renaissance, est un roman du refus du passing, forme d'arnaque ultime qui permet de rejoindre le monde des blancs.
Quand nous quitterons Chicago, saute par-dessus la barrière invisible. Fais-toi passer pour l'un des privilégiés. Fawkes, tu auras de la compagnie. Je serais pas surpris d'apprendre que plusieurs millions de nègres blancs ont pénétré dans le jardin d'Éden de l'autre côté, avec toutes les chances à saisir. Sois pas un pigeon, fils. Le lait et le miel sont de l'autre côté de cet enfer.
White Fawkes refuse de quitter le monde noir qu'il considère comme sien. Tout comme Mama Black Widow parle d'Otis, gay et travesti, Iceberg Slim peint ici un être frontière, bousculant la rigidité des étiquettes dans un environnement hostile. Johnny décrit ainsi son intégration dans le monde des arnaqueurs.
Pocket et les barons me traitaient aussi amicalement que si j'avais été aussi noir que le charbon. Et crois-moi, c'était le bonheur.
Cette jouissance, contraire aux hiérarchies sociales, renvoie à une autre scène du roman qui est entreaperçue de la rue. Dans un appartement, un homme est figé devant le sexe d'une femme, entre fascination, envie et regret de ne pas avoir le même. Comme dans beaucoup de récits de passing, le questionnement des apparences s'étend au genre et aux sexualités. Johnny lui-même se retrouve souvent dans des situations ambiguës, certains considérant qu'un homme blanc qui s'intéresse tant aux hommes noirs est forcément homosexuel. Il prétendra même l'être lors de sa première rencontre avec Midge, la fille de Blue, qui est lesbienne. À ce moment-là, Johnny formule surtout un trouble identitaire que l'on pourrait traduire ainsi.
« Je suis ce dont je n'ai pas l'air ».
Et pourtant, lui-même s'attache à certains faux-semblants.
« Est-ce que tu plaisantais en affirmant aimer les filles ? Tu me donnes pas l'impression de faire partie de cette bande ?»
Le revers positif du leitmotiv de l'arnaque, du trick, c'est l'appel à la déconstruction du regard face aux illusions de la surface. L'écart entre la manière dont Johnny est vu et sa conscience communautaire est une source de souffrance. Mais l'usage de cette apparence trompeuse comme d'un piège sanctionne ce qui se fie trop à la façade et ça tient lieu de revanche. La thèse qu'Iceberg Slim développe ainsi qu'on retrouve de manière récurrente dans ses œuvres, c'est celle de la facticité de tous les rôles sociaux et le pouvoir qui peut découler de la performance. La vérité crue, elle, apparaît à la dérobée, par un trou de serrure, par un coup d'œil à une fenêtre, dans l'intimité, dans le lâcher-prise, ou chez les groupes aux marginalités bien trop en rupture avec leur époque pour rechercher la norme. Par exemple, Midge dira à son père de ses amis homo qu'ils sont authentiques, qu'ils comprennent la vie mieux que les autres.
Well, I ain't from Chicago, I'm from a little town. No, I ain't from Chicago, I'm from a little town. But this boogie-woogie's so fine, I think I will stay around. We was up in Wisconsin, everything was really all right. Yes, way up in Milwaukee, everything was really all right. Now up there, they like the boogie, but they ain't got Chicago's beat. Somebody said, jump the boogie, that's what we're going to do. Yes, they said, jump the boogie, that's what we're going to do. And we'll call it Chicago Boogie if that's all right with you. Thank you.
don't you pass the word that this boogie woogie here is the finest you ever heard.
Troisième mouvement, derrière le masque.
Nous portons le masque. We wear the mask. Paul Laurence Dunbar.
Nous portons le masque qui sourit et ment. Il cache nos joues et ombrage nos yeux. Cette dette, nous la payons à la ruse humaine. Avec des cœurs déchirés et saignants, nous sourions. La bouche pleine de subtilités en myriades. Pourquoi le monde serait-il plus sage en comptant nos larmes et soupirs ? Non. Laissez-les seulement nous voir pendant que nous portons le masque. Un ex-mac est a priori mal placé pour dénoncer les violences faites aux femmes. Mais la question traverse et nourrit son œuvre dans un discours pluriel et ambivalent. Le haut de l'iceberg, c'est une misogynie envahissante. Les femmes sont tordues, traîtresses, profiteuses, et dans le milieu du crime, ça peut être fatal si on se laisse endormir. Elles n'ont pour la plupart pas de part active dans le business, hormis la prostitution. Et dans l'idéal des arnaqueurs, elles remplissent une fonction d'exutoire sexuel. Plus elles sont jeunes et manipulables, mieux c'est. Elles ne sont jamais innocentes. Professionnelles ou juste vénales, elles ont toutes un prix. Ce discours-là constitue une première couche. Il est majoritairement assumé par Blue, père adoptif donneur de leçons qui a visiblement épuisé à mort une épouse soumise et a fait fuir par ses coups sa fille. Sa posture de macho triomphant est constamment sapée par la narration, par une accumulation de scènes glauques entre violence, ridicule et solitude extrême. En face, la sincérité candide de Johnny, le narrateur, fissure cette parole monolithique.
Tous les samedis soirs, un gars de l'immeuble battait sa femme. Les cris étaient affreux. Souvent, le lendemain matin, je remarquais du sang séché dans les couloirs et sur les marches.
Les souvenirs d'enfance de Johnny sont saturés de violence contre les femmes, jusqu'au viol collectif, narré dans toute son horreur, dont sera victime Fala, sa mère, qui en deviendra folle. Même déesse, bourgeoise blanche et raciste, est victime. Elle a été violée régulièrement par un mari qu'elle a été contrainte d'épouser, et elle est entièrement soumise à un père manipulateur qu'elle vénère. Quant à Midge, elle incarne l'aspiration à l'indépendance. Slim rêve à travers elle l'utopie d'une extraction totale du patriarcat dans un monde sans hommes. Et quand Johnny observe à la dérobée Midge et Céleste faire l'amour, la lesbophobie cède place à la fascination pour le lesbianisme. Et on retrouve ce fantasme de ne pas être un homme lancinant dans d'autres romans de Slim. Même les mamies comme Grandma Annie et Sir Franklin, archétypes de vieilles femmes noires maternantes liées au sud profond avant la déchéance urbaine, même ces mamies-là ne sont pas classiques, elles ne sont pas soumises. Grandma Annie est une ancienne esclave qui a passé sa vie à apprendre la lecture et l'écriture aux noirs. Sa générosité est tournée vers l'élévation intellectuelle et c'est elle qui aidera Johnny à se débarrasser de ses angoisses infantiles. Face à Blue et à son cynisme manipulateur et mortifère, les personnages féminins comme Grandma Annie, Céleste, Cordelia, Midge, Fala portent globalement un discours et des attitudes de rupture vis-à-vis des normes et de déconstruction des regards. Les destinées des personnages féminins ne sont pas particulièrement plus heureuses que celles des hommes, mais elles contraignent Johnny à adopter un regard plus en profondeur sur le monde et poussent le lecteur dans cette direction.
Que faire d'Iceberg Slim ?
Il y a une ambiguïté insoluble au cœur de l'œuvre d'Iceberg Slim, aggravée par le succès de Pimp et la sanctification de son auteur comme l'ultime figure du proxo triomphant. Iceberg Slim est une clé. Iceberg Slim est une prison. Il est un stéréotype racial dangereux et une voix de la marge. Il est l'union impossible du féminisme noir et de Snoop Doggy Dogg, du capitalisme et de la lutte des classes. S'il fallait faire un parallèle avec une autre figure de la littérature, ce pourrait être Louis-Ferdinand Céline. Une œuvre brillante, mais un type dont on ne regrette absolument pas de n'avoir pas pu le fréquenter. Des fans dans des camps radicalement antithétiques et qui ne peuvent que le rester. L'œuvre inoubliable d'Iceberg Slim porte en elle des incertitudes salutaires, même si beaucoup de fans, Snoop, Dave Chappelle, Ice-T ou Too Short parmi les exemples les plus connus, considèrent avec satisfaction Pimp comme l'apologie du contrôle des femmes, ce qu'on retrouve dans l'absurdité d'une quatrième de couve qui proclame qu'Iceberg Slim fut, je cite, « l'un des plus grands proxénètes de Chicago ». D'autres ne voient absolument pas ce que peut être un grand Mac à part une grosse ordure et pensent qu'en dehors des comptes, les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître.
On this mic, it's not shine if you want to make a man. Skin out your back, you can't take the sun long. All it took are you a article done. Jamaica won the happy beer, don't pass a walk. Give your Jamaican sweet girl bikini. Them niggas say ya them up the winery. What make the man them a run after she? You never knew what say she a yardy. Men travel for miles around, they know what's in town. Jamaican.
Il était une fois, dans les années 80.
Tout avait très bien commencé. C'était en 1981. Résolution de l'UNESCO à l'appui, municipalités, départements, régions, universitaires et organismes culturels s'entendent pour donner à la célébration de la traite négrière.
Célébration de la traite négrière.
Célébration de la traite négrière.
Une dimension internationale, internationale, internationale. Au départ, une palme, Nantes au XVIIIe siècle, premier port négrier de France. Les mémoires sont-elles trop pesantes? Raison budgétaire à l'appui? Du projet capoté, il ne restera de scientifique qu'un colloque confidentiel.
Il y a eu cet événement épouvantable qui s'appelle l'esclavage. On a été, les ancêtres ont été déportés sur cette terre. Donc l'important, c'est, comme je le répète, parce que pour moi c'est essentiel, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nous, c'est-à-dire et comment on va lutter pour parvenir à la vraie liberté, parce que la Guadeloupe n'est pas encore libre.
Quelle est la part de responsabilité que vous attribuez à l'Afrique dans l'esclavage?
Drôle de question, enfin la part de responsabilité, c'est-à-dire vous évoquez la théorie de ceux qui diraient que les Africains, les rois avaient vendu des esclaves. Bon, moi je dis que ce problème-là ne m'intéresse pas tellement de savoir la part de responsabilité, parce que la responsabilité première, elle vient de ceux qui ont dépeuplé l'Afrique, hein, pour en tirer un maximum de profit sur la terre des Antilles, partout dans le Nouveau Monde.
Le 25 mars 2012, la ville de Nantes, premier port négrier de France, s'est fait cadeau d'un mémorial de l'abolition de l'esclavage, pour un coût total estimé à 6 900 000 euros, financé par l'Europe, la communauté urbaine, la municipalité, la région et le conseil général. L'artiste polonais Krzysztof Wodiczko et l'architecte argentin Julian Bonder, experts en mémoire, trauma et espace public, ont dessiné le bâtiment. Les travaux ont duré 2 ans. Des affiches sur lesquelles il était inscrit « L'esclavage se combat encore aujourd'hui » en ont annoncé l'ouverture. La semaine d'avant s'est tenu un colloque sans débat, sagement noyauté par Françoise Vergès. Puis est venue l'inauguration par le maire Jean-Marc Ayrault, l'heure des congratulations, des solennités avec les Taubira, Thuram et consorts comme invités d'honneur. Mais que veut dire le mémorial de l'abolition de Nantes ?
Sur les bords de Loire, à 2 pas du centre-ville, le mémorial est intégré au parcours touristique nantais. Une boucle reliant la passerelle Schœlcher, hommage aux héros solitaires de l'abolition, le palais de justice à l'architecture contemporaine, et enfin un éléphant géant en bois et son exotisme à roulettes. Le marketing urbain local a digéré les questions coloniales et la ville bourgeoise exhibe sa dernière attraction commémorative. Elle est là, posée sur les quais où embarquaient autrefois les négriers, matelots et armateurs. Elle est face aux immeubles des négociants d'alors, à l'architecture aujourd'hui classée, sans qu'aucun lien ne soit fait avec la géographie nantaise de cette histoire criminelle. Pas de nom de famille, pas de lien avec le développement de la cité. On ne parle pas d'esclavage, mais d'abolition.
La princesse de Rohan-Guéménée, navire négrier, partie de Nantes en 1764. La sainte Agnès, partie de Nantes en 1720. La Constance, 1791. Le Saint-Hilaire, 1771. Sestricou, Liberia, Afrique, escale. Le Zéphyr, 1725. Le Fortuné, 1750. Le Ruby, 1830. L'Africain, 1719. Le Salomon, 1740. Le Saint-Joseph, 1740. Bastère, Guadeloupe, Antilles, site de vente des captifs.
Pour les visiteurs, le parcours commence par une allée jonchée de petits pavés, tentant l'inventaire des expéditions parties de Nantes, avec le nom des bateaux négriers, la date, mais aussi des lieux de vente ou d'escale. Ce qui produit un drôle de mélange entre les trafiquants coupables et des lieux où majoritairement vivent aujourd'hui des descendants de victimes. Ici, le travail de mémoire contraint curieusement à se regarder les pieds. Plus loin s'ouvre une large esplanade, presque nue, hormis une cabine d'ascenseur et le haut des plaques commémoratives émergeant à peine du sol. Parce que le mémorial gît, sous terre, enterré. Deux grands escaliers conduisent à un souterrain d'environ 90 mètres de long, à l'aménagement minimal. Ici, on a voulu fabriquer une ambiance entre le fond de cale et le fort aux esclaves. Avec planchers, pontons en bois, murs épais en pierre et structure du quai en béton imitant vaguement la charpente d'un bateau. Ajoutez à cela la bande sonore qui diffuse par intermittence des bruits de cale, des bruits de chaîne, un peu de tambour et un lointain chant de femmes.
Sur des grandes plaques de verre inclinées comme la coque d'un navire, on peut lire « Liberté » dans des dizaines de langues et des extraits de textes plus ou moins anciens. Déclarations, poésies, récits de voyage, lois, traitant de l'esclavage, de quelques luttes d'esclaves et de la nécessité de l'abolition. Tous les auteurs sont confondus. Chroniqueurs, anciens esclaves, affranchis, abolitionnistes blancs, militants et poètes noirs. L'endroit est sombre et les ouvertures peu nombreuses. Vu sur les quais en face, et cadrage soigné sur le palais de justice, histoire de s'auto-convaincre de la portée de cette comédie. Juste avant de remonter à la surface, une petite salle avec une carte des trajets, des estimations chiffrées d'Africains déportés et d'esclaves vendus aux Amériques, une frise historique du 18e à nos jours, et la version audio des textes inscrits sur les plaques. Et c'est tout, la visite est terminée.
Freedom. Oh, freedom.
contenu est mince, très mince. Et il fut au cœur d'âpres polémiques avec les associations locales qui œuvrent pour que Nantes se confronte à son histoire depuis longtemps. Le mémorial n'est pas un lieu de savoir, pas de livre. On reste dans le bref, le déclaratif, l'allusif, le solennel creux. Personne ne vous y accueille non plus. Le discours qui sous-tend ce vide, c'est celui du recueillement, de l'émotion sur commande. Et ça fonctionne. Un tel vide nous met en colère. Les références à l'esclavage moderne, qui élude impérialement le sort des migrants en France et en Europe, mettent en colère. L'accent mis sur l'abolition pour la championne de France des cités esclavagistes met en colère. Le tourisme de l'abolition après les profits de l'esclavage met en colère. Les centimes d'euros jetés par les touristes au fond des petits bassins qui longent le parcours souterrain nous mettent en colère.
La proposition du mémorial est limpide, vulgairement évidente, comme la photo racoleuse sur Internet d'un couple mixte en visite pour illustrer un article sur le lieu du crime. Cette proposition, c'est la réconciliation à peu de frais. Avec bonne conscience, sans cadavre, sans signe de violence faite au corps, sans marque ni mémoire de l'enfermement, sans culpabilité, sans réparation, sans artiste ou intellectuel noir, sans réflexion sur le racisme, sans autre sens politique que les tripatouillages d'élus locaux de gauche qui, ça et là, du quartier Malakoff à Notre-Dame-des-Landes, érigent la construction en art d'effacer les mémoires.
Et au sol, lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá.
A ciranda vem, vem, vem a ciranda.
floresta na praia e a gente brinca mais um bem. Olha, eu vi uma preta cirandeira com cansa na mão, brincando, virando animada no meio de uma multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando. A preta pegou a improvisa. Eu perguntei: quem é esta negra? Sou liadita maraca. A ciranda vai, vai. A ciranda vem, vem. Vem a ciranda, só presta na praia. A gente brinca mais.
Dans cette émission 38, vous avez écouté Kazé avec Créature ratée, Tracy Chapman avec Behind the Walls, Five Blazers, Chicago Boogie, Chaka Khan avec I'm Every Woman, Mishimi and LA Love avec Jamaican Funk, Lia de Itamaraca avec Eusu Lia, et en ce moment, c'est Laura Rucker avec Crying the Blues.
Morning, couldn't even get out of my bed. I woke up this morning, couldn't even get out of my bed. Had the blues about my honey, nearly killed me dead. So I cried all night, all that night before. So I cried all night, all that night before. Gonna change my way of living. Maybe I won't have to cry no more. Never miss my water till my well run dry. I said I never miss my water till my well run dry. And I never miss my baby till he said goodbye. Ever made me cry.